Bonjour à tous. Alors c'est vraiment ce matin pour moi une grande joie de vous retrouver. Donc je m'appelle Pierre Solotki, pour ceux qui ne me connaissent pas. J'ai été effectivement membre de cette assemblée pendant une dizaine d'années. Donc je suis là avec Marie-Laure, mon épouse, et ma dernière fille, Noémie. On a toujours beaucoup de joie à vous revoir. Et quand je repensais à cette visite ce matin, je me disais... Je repensais à ce que disait l'apôtre Jean dans sa deuxième et troisième lettre en introduction, quand il écrit dans sa deuxième lettre à Kyria l'élu, et dans sa troisième lettre, quand il écrit à Gaius, il parle de grande joie. C'est le même mot qui est utilisé dans le texte original grec, qui est une joie intense. Il lui dit notamment « J'ai pas de plus grande joie que de voir que mes enfants marchent dans la vérité ». Voilà, donc c'est la joie qui me caractérise ce matin. Je suis vraiment très heureux de vous voir tous, de voir des visages connus, peut-être moins connus. Et aussi une grande crainte, parce que je dois parler de la part du Seigneur. C'est toujours une grande responsabilité. La Bible nous dit que ceux qui prennent la parole seront jugés plus sévèrement. Donc voilà, je vais essayer avec une grande crainte de vous transmettre quelques pensées de la part du Seigneur, ce que le Seigneur m'a mis sur le cœur pour l'Assemblée, puis pour chacun de vous aussi, parce que je pense que Dieu peut aussi parler au travers de sa parole, et peut parler au travers des circonstances. Et on va essayer ce matin de méditer un certain nombre de choses ensemble. Alors, si je vous parle de Xynthia ou de Katharina, ça vous dit quoi, ça ? Ah bon ? Moi, je pense à deux jolis prénoms. Est-ce qu'il y a des Xynthia ou des Katharina ici ? Non ? Mais enfin, moi, je trouve que c'est des jolis prénoms. Alors, c'est marrant comme on a la propension à voir... le côté positif ou négatif, mais c'est souvent le côté un peu plus négatif de la chose. Effectivement, on peut voir le joli prénom, mais aussi on peut voir le nom d'un certain nombre de tempêtes qui ont frappé l'humanité. Xynthia, c'était en France il y a 2 ans, fin février. Katharina, un peu plus longtemps, mais en Louisiane. Une tornade qui a balayé complètement la ville de la Nouvelle-Orléans. Et donc, c'est des éléments qui restent dans notre inconscient, finalement. Ce vent, cette tempête qui souffle et qui peut porter un coup au moral des gens avec des images parfois terribles. Alors, je ne sais pas si... Voilà ce qu'on peut voir éventuellement à la fin du passage d'une tempête. On pourrait également penser au tsunami japonais. Lors du tremblement de terre, c'est un peu des images de désolation, de détresse, et donc on voit des gens qui se recueillent, des gens qui s'interrogent, on voit des pourquoi, comment est-ce possible, et des événements comme ça finalement font prendre conscience à l'homme qu'il est limité, malgré tous les exploits qu'il peut accomplir et dont il peut se vanter. Il peut aller sur la lune, il peut observer le fin fond de l'univers, mais l'homme est limité parce qu'il ne peut pas prévoir ce genre de choses, cette tempête, ces vagues gigantesques. Et des questions surgissent alors. Comment est-ce possible ? Et tout de suite, on fait appel à la religiosité. Est-ce qu'il y a un Dieu ? Est-ce qu'il y a des dieux ? Et s'il y a un Dieu, s'il y a des dieux, où est-ce qu'ils sont ? Où est-il ? Et puis après, on se dit, mais sont-ils tellement méchants ? Tellement en colère, pourquoi est-ce qu'ils nous punissent de cette manière ? Et cette idée de colère de Dieu, cette idée de punition, est présente dans tous les récits de la mythologie, et même dans la croyance des nations, dans l'inconscient des nations. Par exemple, quand on lit les auteurs grecs, Homère, Eschyle, Sophocle et compagnie, eh bien, on s'aperçoit que cette colère de Dieu, cette colère des dieux est présente en permanence. Elle est présente dans notre inconscient collectif. Alors, même si nous, ici, à l'intérieur des terres, on n'aura jamais à subir de telles catastrophes, peut-être, Xynthia, c'était en Vendée, au bord de l'océan, eh bien, il y a parfois, et en marge de tout cela, bien sûr, dans nos vies, des tempêtes qui, soudain, peuvent s'abattre sur nous sans prévenir, un petit peu comme Xynthia, comme Katharina, comme le tsunami du Japon, comme le tsunami de 2004, dans le sud-est asiatique. Et je veux parler, bien sûr, des tempêtes de la vie. Ça va être mon sujet ce matin. les tempêtes de la vie, et chacun ici peut y mettre son propre mot. Il n'y a pas de définition, pour certains, une tempête personnelle ne sera pas une tempête pour d'autres, mais chacun subira ou a subi déjà dans sa vie quelque chose de terrible. Et c'est le patriarche des temps anciens, Job, dont un livre complet de la Bible nous relate les aventures. Job disait au début de son discours, au chapitre 9 et au verset 17, en parlant à Dieu, donc, il disait « Lui qui m'assaille comme par une tempête, qui multiplie sans raison mes blessures. » Lui qui m'assaille comme par une tempête, qui multiplie sans raison mes blessures. Et toujours à cause de cette idée d'un Dieu en colère, on lui attribue un peu n'importe quoi. Chez nous, à Lyon, tous les 8 décembre, on a la fête des Lumières, donc c'est un événement européen maintenant, plus de 4 millions de visiteurs, et on a l'habitude de sortir dans les rues, parce qu'il y a beaucoup de monde, on va témoigner de l'Évangile chaque fois le 8 décembre. Et je me souviens, il y a quelques mois, donc l'année dernière, je parlais à une dame qui était vraiment en colère contre Dieu. Elle me disait « Mais votre Dieu, moi je m'en fiche complètement. » Et au bout de quelques minutes de discussion, elle me sort « Oui, mais Dieu m'a pris mes 2 filles. » C'était une dame qui avait une 40aine d'années. Elle avait perdu 2 filles. Et on peut comprendre que dans ces cas-là, eh bien, les personnes soient révoltées et s'en prennent à Dieu un petit peu. Et comme Job, on ne comprend pas quand la tempête arrive. On peut avoir tendance éventuellement à l'attribuer à Dieu. Et c'est vrai que parfois dans la Bible, l'intervention de Dieu est présentée comme une tempête. Et que faire alors dans ces conditions ? Lorsque des éléments extérieurs, des éléments indépendants de notre volonté se déchaînent, lorsque notre situation n'est plus sous contrôle, comment est-ce qu'on peut faire face à des événements non maîtrisables ? Comment résister ? Comment subir ? Eh bien, personnellement, plus j'avance dans la vie et plus je me rends compte que c'est encore dans la Bible que l'on peut puiser des ressources pour faire face avec sagesse à ce type d'événement. Et c'est bien sûr ce matin dans la Bible qu'on va essayer de voir des personnages bibliques qui ont traversé des tempêtes. Et au travers de leur réaction, de leur manière d'agir, eh bien, on va essayer d'en tirer des éléments tout à fait pratiques et encourageants. Alors je vais prendre un premier exemple dans l'Ancien Testament, dans le livre de Jonas. Qui connaît l'histoire de Jonas ici ? Bon, des mains se lèvent, on est en terrain connu. Alors on va lire en Jonas chapitre 1, tout au début, Jonas chapitre 1, versets 3 à 5. Donc Jonas est un prophète de l'Éternel et Dieu lui demande quelque chose de très difficile. Il lui demande d'aller proclamer l'Évangile à Ninive. C'est un petit peu comme si... transposé dans les temps modernes, comme si Dieu aujourd'hui demandait à l'un de vous d'aller prêcher dans les gangs du Bronx ou de Brooklyn à New York. C'est un peu ça, quoi. C'est aller prêcher à des gens violents, ennemis de son peuple. Et Jonas n'est pas du tout d'accord. Alors qu'est-ce qu'il fait ? On va lire à partir du verset 3, donc chapitre 1er. Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffa et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. On n'a pas le temps de lire toute l'histoire, juste qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il y a un marinier qui vient le réveiller, qui lui dit « Toi aussi, à ton tour, implore ton Dieu, on va essayer de faire le maximum, on va mobiliser toutes nos connaissances divines ». Et donc, et Jonas, finalement, il avoue que probablement la tempête vient de lui. Il est jeté à la mer par les hommes et tout de suite, la mer se calme. Et là, au verset 16, on lit « Les hommes eurent peur, ils furent saisis d'une grande crainte du Seigneur, ils offrirent un sacrifice au Seigneur et ils firent des vœux. » Alors, quelle est ici l'attitude de Jonas face à la tempête ? Il fuit, il se cache. Il fait comme si Dieu ne, ne voyait pas. Facile, hein ? Il descend au fond de la cale. La tempête, parfois, peut être un moyen, effectivement, voulu par Dieu pour avertir, pour sensibiliser, pour faire prendre conscience. C'est un peu, dans ces cas-là, comme si une maladie se déclare par une douleur. On a une douleur dans un membre. Ce n'est pas pour nous embêter, c'est juste pour faire prendre conscience qu'il y a une maladie qui est peut-être plus profonde, un mal plus profond, qui pourrait nous détruire complètement. Et effectivement, ce n'est pas sur les belles plages de Jaffa, au bord de la mer Méditerranée, que Jonas aurait pu être confronté de son attitude de désobéissance. Donc Jonas, qui était un prophète de l'Éternel, lui connaissait le Dieu de ses ancêtres. Mais il faisait comme si, peut-être se disait-il, bon, finalement, Dieu, je vais aller me cacher assez loin, si je mets de la distance, Dieu ne me trouvera pas. Et on ne peut pas lui en vouloir à Jonas, sa mission était tellement énorme. Il avait tellement peur, et puis il était révolté, il se disait « mais je ne vais pas aller parler aux Ninivites, c'est des ennemis du peuple d'Israël, il n'y a pas de raison qu'ils se convertissent. » Donc il avait mis Dieu entre parenthèses. Et peut-être Jonas a oublié cette parole de David qu'il a écrit au psaume 139, où David, qui avait pris conscience de l'immensité de Dieu, de l'omniprésence de Dieu, David écrivait au psaume 139, verset 7, « Où irai-je loin de ton esprit ? Où fuirai-je loin de ta face ? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille demeurer au-delà de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. » C'est bizarre, hein, ce verset 9. On dirait que David écrivait pour Jonas « Que j'aille demeurer au-delà de la mer. » C'est là où il voulait aller, Jonas. Tarsis, c'est quelque part en Espagne, au-delà de la mer Méditerranée. Donc cette première attitude, on fait l'autruche, on dort, on fait comme si de rien n'était, on se cache, on pense que Dieu ne nous voit pas. C'est peut-être finalement l'attitude de quelqu'un non plus qui ne connaît pas encore très bien Dieu. Alors bon, Jonas était quand même prophète de l'Éternel, on peut penser qu'il connaissait Dieu, mais peut-être pas dans cette intimité, il se doutait peut-être pas que Dieu allait pouvoir le rattraper. En tout cas, il s'est trouvé là, le capitaine du navire, pour venir le réveiller au fond de la cale. Il avait pris vraiment soin d'aller au fond du navire, il voulait se cacher, mais il se trouve toujours un capitaine de navire pour nous réveiller, pour réveiller Jonas et pour faire prendre conscience. « Hé, regarde, il y a la tempête là maintenant, réfléchis un peu, est-ce que ça ne viendrait pas de toi ?» Ça me rappelle aussi un peu l'attitude d'Élie. Vous savez, Élie, quand il a remporté cette magnifique victoire sur les prophètes de Baal au Mont Carmel, ben, il a eu peur des menaces de Jézabel, qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est enfui. Il s'est enfui, il est parti dans le désert, puis à un moment donné, il était fatigué, il s'est couché, il s'est endormi. C'est bizarre, un peu comme Jonas. De temps en temps, on s'endort, on veut pas savoir, on ne veut pas affronter la réalité. Alors, et là encore, là, il faut un ange de l'Éternel pour le frapper au côté, pour le réveiller, lui dire « Tiens, lève-toi, là, réfléchis, alors mange un peu. » C'est ce que l'ange disait à Élie. Donc c'est un petit peu comme Jonas. Cette attitude, donc, de fuite, d'autruche. On va voir une deuxième attitude maintenant face à la tempête. Et elle a pour théâtre, cette fois-ci, non pas la mer Méditerranée, mais un petit lac intérieur qu'on appelle la mer de Galilée. Et mer de Galilée qui est bien calme, bien jolie, avec des jolis coteaux, mais qui est connue pour ses violentes tempêtes, qui sont souvent imprévisibles. C'est en plein milieu, enfin au nord plutôt du territoire d'Israël. C'est vraiment un endroit connu pour des tempêtes. Il y a des phénomènes climatiques à cause du mont Hermon, un air froid qui descend du mont Hermon, qui rencontre l'air chaud du désert. Et là, il y a des phénomènes météorologiques. Et il y a souvent des tempêtes. Et on va lire donc dans l'évangile de Marc, je vous demande d'ouvrir vos Bibles, dans l'évangile de Marc au chapitre 4, à partir du verset 35. On va voir une deuxième attitude face à la tempête. Marc, chapitre 4. À partir du verset 35. Jésus est donc avec ses disciples, c'est le soir, et Jésus dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive du lac de Galilée. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent comme il était dans le bateau. Il y avait aussi d'autres bateaux avec lui. Verset 37, « Survint une forte bourrasque. Les vagues se jetaient dans le bateau, déjà il se remplissait. Lui, Jésus, dormait à la poupe sur le coussin. » Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, nous sommes perdus et tu ne t'en soucies pas ?» dans l'évangile parallèle de Matthieu, Luc, la Bible nous dit, enfin, les disciples disent au Seigneur, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Verset 39, réveillé, il rabroua le vent et il dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent tomba et un grand calme se fit. Puis il leur dit, « Pourquoi êtes-vous peureux? N'avez-vous pas encore de foi ?» Ils furent saisis d'une grande crainte et Luc rajoute d'admiration. Ils se disaient les uns aux autres, « Qui est-il donc celui-ci que même le vent et la mer lui obéissent ?» Alors, quelle est ici l'attitude manifestée par les disciples? Un petit mélange. La peur, l'incrédulité. Moi, je dirais qu'il y a aussi de la colère, il y a du reproche aussi. « Hé, maître, tu ne te soucies pas qu'on on va couler, là. Toi, tu dors et on va couler. Qu'est-ce que tu fais ?» C'est comme s'il lui disait, « Seigneur, à vue humaine, on est perdu. La barque se remplit d'eau, hein, comme la photo que je vous avais montrée tout à l'heure, la petite barque au milieu de la grande mer. Encore quelques minutes, on va couler. Et toi, tu fais rien, là. Qu'est-ce que tu fabriques ? T'es aux abonnés absents. » Est-ce qu'on ne parle pas à Dieu comme ça, de temps en temps ? C'est un petit peu le poing serré vers le ciel de celui qui dit « Ah, Dieu, s'il existait vraiment, il ferait quelque chose. » Il ne faut pas oublier le contexte de l'Évangile. On est au début, ici, du ministère de Jésus. Les disciples sont encore loin d'avoir compris qui était Jésus. Bien sûr, ils ont été appelés, ils ont vu des miracles, ils ont entendu le sermon sur la montagne, mais ils n'ont pas encore été confrontés à qui était vraiment Jésus pour eux-mêmes. Et cette tempête, finalement, va les amener à une juste question. Qui est vraiment Jésus ? Hein, verset 41, « Qui est-il donc ? Celui que même le vent et la mer lui obéissent. » Est-ce que Jésus est le chef d'une religion ? Est-ce que Jésus est comme Bouddha, comme Mahomet, Krishna, je ne sais qui encore ? Qui est vraiment Jésus ? Les disciples ont vécu quelque chose d'assez fort ici. Parce qu'ils ont soudain réalisé que la colère contre Dieu pouvait se transformer en admiration et les amener à se poser la juste question. Qui est Jésus ? La troisième attitude face à la tempête que je voudrais partager avec vous, ça se passe toujours au bord de la mer de Galilée. Finalement, cette mer de Galilée, c'est un bon amphi de travaux pratiques, non ? Vous ne trouvez pas ? On apprend plein de choses sur la mer de Galilée. On apprend à marcher sur l'eau, on apprend à résister à la tempête. C'est sympa, non ? Alors, on va lire dans l'évangile de Jean, au chapitre 6 et au verset 16. Cette fois-ci, les disciples sont toujours dans une barque, mais Jésus n'est pas avec eux. Alors vous me direz, c'est pas bien grave, parce que c'est quand même des disciples pêcheurs pour la plupart, et puis ils ont déjà vécu une expérience de la tempête. Donc quand on a déjà vécu une expérience, c'est cool. Ben, pas tout à fait quand même. Donc on va lire Jean chapitre 6, verset 16. « Le soir venu, ses disciples descendirent jusqu'à la mer. » Ils montèrent dans un bateau pour se rendre à Capernaum sur l'autre rive de la mer. Les ténèbres étaient déjà là et Jésus n'était pas encore venu à eux. Un vent violent soufflait de la mer et la mer se soulevait. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils aperçoivent Jésus qui marche sur la mer et s'approche du bateau. Ils eurent peur. Mais il leur dit, « C'est moi, n'ayez pas peur. » Ils voulaient donc le prendre dans le bateau, et aussitôt le bateau toucha la terre, là où ils allaient. Alors pour le contexte, ici, Jésus vient de multiplier les pains, a fait un grand miracle devant tout le monde, et les foules viennent pour le faire roi. Et lui, il a eu besoin de se retirer seul pour rester avec son père. Dans l'évangile de Marc, qui est le passage parallèle au chapitre 6, la Bible nous dit que Jésus les avait obligés à monter dans cette barque. Donc, ce n'est pas de plein gré, ils les avaient obligés. Et on peut penser qu'au moment où ils allaient traverser, la mer était relativement calme. Et donc, Jésus ensuite s'est retiré. Est-ce que Jésus savait ce qu'il faisait en les obligeant à monter dans la barque? Votre avis? Oui, ça paraît évident. Et donc, on peut penser donc que lorsqu'ils ont embarqué, la mer était d'huile ou c'était relativement calme. Et c'est pendant cet épisode, d'ailleurs, que Pierre a marché sur l'eau. Il a mis les pieds sur l'eau et il a marché. Ce qui est, à ma connaissance, la seule personne qui ait jamais marché sur l'eau à part Jésus. Et là, donc, la troisième attitude, qui est peut-être l'une des attitudes les plus naturelles face à la tempête, c'est quoi? C'est la crainte, la peur, avec une petite pointe d'incrédulité. Jésus n'est pas dans la barque avec eux. La première fois, il y était, là, il n'y est plus. Et ils se disent, ça y est, Jésus n'est pas là, on est livrés à nous-mêmes. Pourtant, ils avaient traversé, on l'a dit tout à l'heure, ils avaient déjà traversé une tempête. Ils avaient vécu quelque chose. Ils revivent la même situation et paf, ils recommencent. C'est bizarre, hein? Moi, je me retrouve bien là-dedans parce que je vis parfois certaines choses avec Dieu et quand elles se reproduisent, eh ben, c'est comme si je n'avais rien vécu. J'ai beau avoir vécu des expériences positives, formidables avec Jésus, ben, quand ça se reproduit, c'est difficile. Alors on se dit, oui, c'est vrai, Dieu m'avait secouru. Mais là, c'est différent. Là, peut-être que Jésus, il va pas le faire. Ou peut-être Jésus ne peut pas le faire. Il l'a fait une fois, mais il est peut-être occupé ailleurs. Et puis, pour les disciples, c'est logique. La première fois, il était dans la barque. Là, il n'est plus dans la barque. Il doit être loin, il ne peut pas savoir, etc. C'est important, l'image, parfois, qu'on se fait de Jésus. Et là, Jésus vient vers eux. Et il marche sur l'eau. Extraordinaire. Jésus vient et marche sur l'eau. Est-ce qu'il ne vous est pas arrivé de vous dire de temps en temps, cette fois, dans ma situation, Dieu m'a abandonné? Ça vous est jamais arrivé, ça? Dieu m'a abandonné. Jésus ne s'occupe pas de moi. Il est occupé ailleurs. Il m'a abandonné. Et là, Jésus est prêt à venir marcher sur les eaux. C'est encore mieux que la première fois. La première fois, il dort dans la barque, il calme la mer. La deuxième fois, Jésus vient, il marche sur l'eau. Il y a, dans cet évangile de Jean, il y a tout un tas de miracles qui se produisent. Jésus marche sur l'eau, Pierre marche sur l'eau. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand Jésus arrive et qu'il monte dans la barque, je ne sais pas comment il a fait. Est-ce qu'il est arrivé avec deux gros moteurs de hors-bord de 80 chevaux? Mais la barque, tout de suite, elle a accosté. Là, il y a eu un miracle qu'on ne voit pas. Mais il y a eu un miracle, tout de suite ils ont traversé. En un instant, ils se sont retrouvés de l'autre côté. Et comme pour Jonas, cette tempête avait une visée pédagogique pour les disciples. Et Jésus savait ce qu'il faisait. Vous êtes d'accord avec ça? Donc la tempête de Jonas, on a vu deux tempêtes sur le lac de Galilée, avec des réactions qui sont somme toute naturelles d'êtres humains que nous sommes. J'aime bien l'apôtre Jacques quand il parle d'Élie, le grand prophète Élie, le plus grand des prophètes. Celui, quand on parle de la loi et des prophètes, la loi c'est Moïse, les prophètes c'est Élie. Le plus grand des prophètes, Jacques nous dit, c'était un homme de la même nature que nous. C'est extraordinaire ça. Moi ça me parle. Élie c'est pas un surhomme, c'est juste un homme ordinaire comme moi, comme vous. On est tous des gens ordinaires devant la tempête, on peut avoir peur, on peut être incrédule, on peut lever le poing devant Dieu. On se retrouve là-dedans, c'est vraiment vivant. Ça vous parle, ça? On va maintenant prendre l'exemple de quelqu'un un peu plus mûr dans la foi, qui a su traverser une tempête avec sagesse. Alors on va jouer aux devinettes. Qui est-ce qu'on va prendre, à votre avis? Paul? Alors Job, oui, on peut prendre Job, mais on ne l'a pas vu sur la mer. Job, il était avec son tesson à se gratter, au coin du feu, je ne sais pas où, dans la cendre. Mais si on veut garder le thème de la tempête, on pourrait prendre Job, parce que Dieu se révèle aussi dans la tempête. On va prendre l'apôtre Paul, effectivement. L'apôtre Paul, donc, on va prendre dans le livre des Actes, au chapitre 27. La quatrième attitude, qui est une bonne attitude, qui moi me sert d'exemple. Donc l'apôtre Paul qui est arrêté à Jérusalem, et puis comme il est citoyen romain, il fait appel à César. Donc après quelques pérégrinations, des témoignages devant des rois, finalement il est embarqué pour aller à Rome devant le tribunal de l'empereur. Et là, à l'époque, il n'avait pas un navire privé à sa disposition. Il part sur un navire marchand avec d'autres prisonniers. Et puis, ils font des escales, bien entendu. Et ils s'arrêtent sur l'île de Crète. Et puis là, c'est le début de l'hiver. Et il se trouve que, le navire était marchand. Le commandant avait probablement des intérêts financiers d'arriver assez tôt. Ils prennent le risque quand même de partir au début de l'hiver alors que la mer commence à devenir agitée. Et là, je vous le donne en mille, ils sortent en plein large. Ils se prennent un vent, Euraquilon, et ce vent les entraîne. Alors, ce n'est pas une petite tempête, hein, ce n'est pas quelques heures comme sur le lac de Galilée, c'est plusieurs jours de tempête qui va les envoyer sur l'île de Malte. Alors, je ne sais pas si vous voyez la géographie, l'île de Crète, l'île de Malte, ce n'est pas tout près quand même. Donc, plusieurs jours de tempête, et la Bible nous décrit ça au verset 20. On va lire à partir du verset 20 pour ne pas trop rallonger non plus. Le soleil, les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Tableau difficile, hein ? Je ne sais pas si ça parle à certains, ça. Si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Moi, il m'est arrivé d'être dans cette situation, de perdre toute espérance, d'être découragé, mais au plus profond. Donc la situation est mal partie. On n'avait pas mangé depuis longtemps, alors Paul, se tenant au milieu d'eux, donc verset 21, leur dit « Ô homme, il fallait m'écouter, ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit « Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César ». Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. J'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Est-ce qu'un ange va nous apparaître à chaque fois qu'on va traverser une tempête ? Ça peut. Moi, je n'ai jamais vécu. Dieu peut être présent par un ange ou il peut être absent. Mais en tous les cas, physiquement, hein, absent physiquement bien sûr, en tout cas, il est toujours présent et il est au contrôle. Dieu contrôle la situation. Et il a transmis à l'apôtre Paul, qui n'avait pas encore l'ensemble des Écritures, il a transmis à l'apôtre Paul un certain nombre d'informations et des encouragements pour dire « Je suis là, je suis assis sur le trône, je contrôle toute chose, même 15 jours de tempête avec des vents, je permets qu'aucun marin ne se perde, il y a juste le navire. » Effectivement, le navire va se briser sur un banc de sable et tous les marins seront sauvés, ils vont se raccrocher à des planches et ils vont arriver sur l'île de Malte, tous sains et saufs. Donc si on résume finalement ces quatre attitudes, on peut soit faire l'autruche alors que Dieu nous parle, Dieu veut peut-être nous avertir, ou bien alors on peut être dans la crainte, dans des reproches, le poing levé contre Dieu, si on n'a pas vraiment compris qui était Jésus. Ou bien on peut être dans la peur et dans l'angoisse, avec un peu d'incrédulité, si on a oublié que Dieu a déjà agi dans nos vies et qu'il est prêt à reproduire ce qu'il a déjà reproduit dans le passé. Ou bien alors, quatrième attitude, la confiance en un Dieu qui s'est révélé dans la Bible comme le Dieu protecteur et le Dieu sauveur. Le Dieu qui est parfaitement aux commandes et qui contrôle toute situation. Voilà quatre attitudes face à la tempête. Alors finalement, s'il y avait un modèle à copier, vous prendriez lequel ? Le quatrième ? Le premier ? C'est sympa l'autruche quand même, non ? Il prendrait plutôt le quatrième ? Alors il y a dans la Bible, et je vais terminer une dernière partie là-dessus, il y a dans la Bible un texte qui, je crois, peut nous aider, une sorte de mode d'emploi sur la manière de traverser une tempête. Et j'aimerais qu'on prenne nos Bibles dans le psaume 107. Le psaume 107, à partir du verset 23. Ce passage nous parle de la survenue d'une tempête dans la vie d'un être humain et comment on peut réagir de la bonne façon, finalement. Un modèle auquel nous, humains, on est comme Élie, hein, de la même nature, faible, incrédule, en colère. Comment est-ce qu'on peut à quoi on peut se raccrocher? Donc le psaume 107, verset 23, nous parle de ceux qui voyageaient sur la mer dans des bateaux, qui faisaient des affaires sur les grandes eaux. Donc c'est la routine, c'est la vie quotidienne, c'est le fait que dans notre vie quotidienne, on se concentre plus sur les choses du monde que sur celles de Dieu. Et Dieu peut parfois intervenir pour nous rappeler le vrai sens de la vie, le vrai sens de sa présence. On est tous comme ça finalement. Cet état initial de voyager dans la mer, de faire des affaires, c'est notre train-train quotidien. Et quand tout va bien, on se préoccupe des affaires de la vie. Un point, c'est tout. On pense peut-être pas trop à Dieu. Ça va pas mal, on n'a pas à s'inquiéter. Verset 24, « Cela vire les œuvres du Seigneur et ses actes étonnants dans les profondeurs. » Donc dans notre train-train quotidien, on voit les œuvres de Dieu. On fait partie d'une église, on voit que Dieu fait des miracles, qu'il guérit des gens, qu'il encourage, on voit des âmes se tourner vers Christ, on voit des changements radicaux de comportement, mais on est dans la routine de la vie quotidienne. Verset 25, il parla et fit lever un vent de tempête qui souleva les flots. Il montait vers le ciel, il descendait dans les abîmes, il défaillait dans le malheur. Saisi de vertige, il titubait comme l'ivrogne et toute leur sagesse était engloutie. Ce passage nous montre que malgré l'avancée de la science et les choses fantastiques que l'homme peut faire, c'est ce que j'ai dit en introduction, il reste moins que rien devant la majesté de Dieu. Et c'est Ésaïe qui écrira au chapitre 40 de son livre, en parlant des nations, en parlant des îles, si vous êtes allé sur des îles, c'est grand une île, il y a des rochers, voilà ce que Ésaïe dit, « Voici les nations, elles sont comme une goutte qui tombe d'un seau. » On se rend compte de la majesté de Dieu quand on pense à ça. Une nation, c'est une goutte qui tombe d'un seau, alors qu'on fait des tas de choses et des tas de projets. « Voici les îles, elles sont comme une fine poussière qui s'envole, » nous dit Ésaïe. Donc on voit Dieu à l'œuvre, et parfois il y a une tempête. Alors la bonne réaction, c'est le verset 28, « Dans la détresse, ils crièrent vers le Seigneur. » Ils crièrent vers le Seigneur, non pas dans une attitude de révolte, « Seigneur, qu'est-ce que tu fais ? Seigneur, pourquoi ça m'arrive ?» mais dans une attitude de confiance et de soumission. Et là, Dieu répond. Alors, il répond peut-être pas tout de suite, mais au verset 28, il est dit « Et il les fait sortir de leur détresse, de leur désarroi, de leur angoisse. Il arrêta, calma la mer, la tempête et les flots se turent. Ils se réjouirent de ce qu'ils s'étaient apaisés et il les conduisit au port désiré. » Dieu a avec chacun de nous une obligation de résultat. La Bible nous dit que Dieu veut nous conduire à la mesure de la stature parfaite de Christ. Mais Dieu va utiliser les moyens que lui juge nécessaires, parce qu'il sait mieux ce dont on a besoin. Proverbe 16,4 nous dit « L'Éternel a tout fait pour un but ». Donc la bonne attitude, finalement, face à la réponse de Dieu, c'est pas de s'interroger « Pourquoi, Seigneur ?» mais plutôt se dire « Vers quoi ?» Vers quoi Dieu veut nous emmener au travers d'une tempête ? Quel est son but ? Pourquoi il utilise ce moyen ? Pas « Pourquoi ça m'arrive ?» Alors, ce n'est pas facile. Je vous parle là de théorie biblique. C'est plus dur de le vivre. La bonne attitude, vers quoi Dieu veut nous emmener ? Et au verset 31, il est dit « Qu'il célèbre le Seigneur pour sa fidélité et ses actes étonnants en faveur des humains, qu'il l'exalte dans l'assemblée du peuple et qu'il le loue dans la réunion des anciens. » La bonne attitude, c'est de pouvoir célébrer le Seigneur, même dans les difficultés. Alors là, c'est impossible. Enfin, moi, j'y arrive pas, ou j'essaye d'y arriver, mais voilà, c'est vers ça que je devrais tendre. C'est vers ça que je devrais tendre, parce que l'épilogue, alors je vous passe tous les versets, mais au verset 43 du psaume, il est dit Que celui qui est sage prenne garde à tout cela et comprenne la fidélité du Seigneur. Finalement, c'est comprendre la fidélité du Seigneur. Et tout à l'heure, quelqu'un a parlé de Job, c'est vrai, on aurait pu parler de Job. Job, tant qu'il s'est demandé pourquoi, il a commencé à discuter avec Dieu. Et à un moment donné, il a laissé tomber. Il a dit, Seigneur, tu es trop grand pour moi. Tu peux tout, je reconnais que tu peux tout. Je sais que ce n'est pas facile pour moi. Mais, Seigneur, tu peux tout. Que celui qui est sage comprenne et prenne garde à tout cela et comprenne la fidélité du Seigneur. Parce qu'avant tout, le Seigneur est fidèle. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir pour nous de tout cela? Quatre points clés. Le problème n'est pas de savoir si la tempête va arriver, ça vous le savez, c'est quand elle va arriver. On peut être dans un instant paisible, mais un jour, ça va changer. Donc, en tant que chrétien, on est exhorté à se préparer. Et les conditions extérieures vont changer. Est-ce qu'on y peut quelque chose? Est-ce qu'on peut agir sur les circonstances? Très souvent, non. On ne maîtrise pas les situations extérieures qui nous arrivent. Ça, c'est un premier point. Deuxième point à se souvenir, c'est que Dieu est souverain. Dieu n'est pas pris au dépourvu. Tous les jours, il veille. Il n'est pas étranger à ce qui nous arrive. Dieu est en contrôle. Quelle que soit notre réaction, Dieu est souverain sur sa création. Hein, Hébreux 1 nous dit que Jésus soutient la création par sa parole puissante. Et s'il y a des physiciens dans cette salle, vous savez qu'il y a un certain nombre de lois physiques extrêmement complexes qui dépendent les unes des autres et qui tiennent l'univers en équilibre. Si on change un nanomètre d'une des lois, eh bien, tout le reste s'écroule. Donc Dieu veille. Et Dieu peut permettre des circonstances de la vie, comme une tempête, pour des raisons qui peuvent nous échapper. Quand on lit le livre de Job, c'est comme dans Colombo, on a l'explication au début. Mais il y a plein d'acteurs dans le livre de Job qui n'ont pas l'explication. Et ils vivent ça en direct. Et c'est des choses qui nous échappent. Le livre de Job ne donne pas la solution. N'explique pas pourquoi Dieu a permis ça. Troisième point à retenir, les conséquences de la tempête dans nos vies dépendent plus de notre attitude que des circonstances. Parce que les circonstances sont des circonstances extérieures que l'on ne maîtrise pas. Donc ce n'est pas la peine de s'acharner dessus, de lever le poing, mais par contre, on est responsable de notre attitude. Et les circonstances extérieures sont souvent, pas toujours, mais souvent les conséquences d'un monde déchu. On vit dans un monde déchu qui est soumis au péché. Et en attendant que les choses soient renouvelées complètement, comme Jésus nous l'a promis, eh bien, on est obligé de vivre dans ces mondes. Donc Dieu ne va pas supprimer les tempêtes, mais on peut compter sur lui pour nous aider à les traverser. Et j'aime bien cette image dans la Bible, qui nous présente Jésus comme un rocher. Le rocher sur lequel la violence des vagues ne peut rien faire. C'est sûr qu'à un moment donné, les vagues peuvent submerger le rocher. On peut ne plus le voir. Il peut être couvert par la mousse. On peut penser qu'il n'est plus là. Et ça, c'est quand on est au fond du trou. Mais la Bible nous dit que Dieu nous conduit au port désiré parce qu'il a une obligation de résultat. Et il veille sur l'accomplissement du résultat. Donc finalement, on a la certitude du résultat final, mais on est incertain de la manière que Dieu va utiliser. On peut traverser une tempête, on peut en traverser 10, certaines peuvent être légères, d'autres peuvent être plus lourdes. En tout cas, notre attitude est vraiment importante. Et notre attitude peut avoir des effets collatéraux positifs face à la tempête. Bien que ça, qu'il soit déjà tard, j'en ai conscience, j'aimerais donner la parole à Jean-Yves. Jean-Yves qui a traversé une tempête un peu soudaine. Il n'est pas le seul. Hein. Je pense à Antoine depuis tant d'années. Je pense à Martine cette semaine et tant d'autres. Je ne peux pas citer tout le monde. Mais j'aimerais que Jean-Yves nous parle de voilà, comment il a utilisé des circonstances pour faire du bien et pour remplir la volonté de Dieu. Thank you.
Ben, écoutez, moi j'ai je vais essayer de faire court, mais je vais essayer de résumer la première semaine courtement, mais c'est celle-là où il y a eu plus d'événements. Tout d'abord, bon, comme tu l'as dit, on est un peu dans le train-train. Donc moi je venais comme tous les jours à l'église pour travailler pour le Seigneur. Je venais là. Et puis ce jour-là, eh bien, c'est le Seigneur qui a pris le contrôle. Et moi, je l'ai perdu. J'ai perdu le contrôle du scooter. Mais Dieu avait le contrôle. Et quand j'ai eu cet accident, je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi ? Pourquoi ? Je vais travailler à l'église ? Pourquoi ? Pourquoi tu me... Voilà, tu m'arrêtes là. Et je ne suis pas allé plus loin dans le pourquoi. J'ai dit, ben Seigneur, maintenant c'est toi qui continues. Et je me suis retrouvé à l'hôpital. Le Seigneur a pris soin de moi. Il m'a épargné des souffrances. Et quand je suis arrivé dans ma chambre à l'hôpital, j'étais avec un voisin de lit. Et ce voisin de lit, bah, tout de suite, il y a eu les présentations. Et alors, c'était comment ça t'est arrivé, qu'est-ce qui t'est arrivé, tout ça. Bah, j'ai dit tout simplement, voilà, je suis retraité, je fais du bénévolat, je vais travailler dans mon église, je fais des travaux de rénovation, et puis voilà, j'ai eu un accident, et voilà, ça s'arrête là. Et donc, ah bon, tu vas dans une église Et la présentation s'est faite comme ça, voilà, je vais dans une église évangélique, et ce gars qui était avec moi, il me dit, ben, mes parents, ils sont évangéliques. Ah, je lui dis, ah bon ? Et il me dit, oui, on fait partie des gens du voyage, des forains, et c'est un mouvement tzigane qui s'appelle Vie et Lumière. Vie et Lumière. Alors, bon, je ne connaissais pas trop ce truc-là, mais je savais qu'il y avait des chrétiens parmi les tziganes. Et je lui dis, mais, et toi, tu n'es pas chrétien ? Et il me dit, ben, non, j'ai pas vraiment accroché. Dans la famille, j'ai des pasteurs, j'ai des... tout ça, mais il dit, moi, j'ai pas vraiment accroché. Et donc, ça m'a permis de l'exhorter à se remettre devant le Seigneur et à essayer de vivre avec le Seigneur. Et puis, bon, lui, il est parti. Et il me restait deux nuits à passer à l'hôpital. Je me suis dit, bon, je vais pouvoir passer deux nuits peut-être tranquille, à dormir un petit peu. Et je me suis couché, quoi. J'ai fermé la porte, je me suis couché, tranquille, bien. Je ne souffrais pas, j'étais bien. Et puis, 2 heures du matin, grand branle-bas de combat. Il y a un nouveau voisin qui est arrivé. Et ce nouveau voisin, ben, c'était un musulman. Et à 2 heures du matin, on a fait les présentations. Et qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce qui fait que tu es là ? Et tout ça. Bon, lui, il est venu faire du ski à l'Alpe d'Huez. Il s'est cassé la malléole. Donc, hop, il est revenu à l'hôpital. Et moi, je lui ai dit, ben voilà, moi, je suis chrétien, évangélique, tout ça. Et il me dit, ah bon, moi, je suis musulman. Alors, enchanté, c'était la première fois que j'avais affaire à un musulman. Et donc, j'ai dit, ben Seigneur, c'est toi qui conduis, c'est pas moi. Et on a eu des moments super. Et il était venu avec 3 copains à lui, pour faire du ski. Donc, quand il est descendu, ben, ses copains ils sont restés à l'Alpe d'Huez, ils ont fait du ski aussi. Et puis, le jeudi, je crois, il y avait beaucoup de vent, donc il n'y avait aucune remontée mécanique qui marchait. Donc, ses copains ils sont descendus à Grenoble, ils sont venus le voir. Et on a passé l'après-midi avec ses copains à discuter de la Bible, du Coran, de leur foi, de ma foi, de notre foi, parce qu'il y avait Dominique, mon épouse, avec moi. Et donc, on a passé un après-midi extraordinaire, pour eux et pour moi, et pour nous. Et puis, ils sont allés manger en fin d'après-midi. Le soir, ils ont dit qu'ils allaient revenir après leur repas. Donc, j'ai fait appel à Benjamin, qui est venu me retrouver le soir. Et on a encore discuté jusqu'à 10 heures du soir avec eux. Et bon, nous, ce qu'on a voulu laisser, c'est un témoignage de foi et de dépendance de Dieu. Et eux, ils avaient aussi une foi, mais une foi qui n'est pas comme la nôtre. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est faire plaisir à Dieu pour peut-être un jour avoir accès au paradis. Et moi, je leur ai dit, bah, écoutez, moi, le ticket pour le paradis, je l'ai. Donc, on a pu témoigner comme ça, on s'est quitté. En laissant nos adresses mail, on a déjà correspondu. Et voilà, et j'espère que le Seigneur va faire quelque chose pour eux. Parce qu'ils sont sincères aussi. Voilà.
Merci Jean-Yves. C'est vraiment du live. J'ai rien préparé. Je suis juste allé demander à Jean-Yves à la fin, enfin au début du culte, de dire quelque chose. Mais vraiment, je ne m'attendais pas à ça. Et c'est formidable. Est-ce que vous croyez que Dieu est au contrôle ? Juste brièvement pour conclure, je vais vous laisser trois pistes. Première piste, trois questions. Est-ce que Dieu essaye éventuellement de nous parler au travers d'une de nos tempêtes ? Première piste de réflexion. Est-ce que Dieu veut nous dire quelque chose ? Deuxième piste de réflexion. Quelle image j'ai de Dieu ? Si j'ai une image étriquée, si je pense que Dieu est à ma mesure, c'est-à-dire tout petit, faible, incapable de quoi que ce soit, qui ne se soucie pas que je vais couler, ou si j'ai une image d'un Dieu vengeur, d'un Dieu en colère, d'un Dieu qui va me punir, un Dieu que je dois apaiser en faisant des trucs à tout prix, ben, je peux pas aller loin là. C'est deux images qui sont erronées, qui ne sont pas bibliques en tous les cas. Ce n'est pas conforme parce que la Bible nous parle d'un Dieu compatissant qui fait grâce, plein de bonté, plein de miséricorde. Dieu ne punit pas, même si dans la Bible il y a des punitions, même si Dieu montre que dans la Bible il est en colère face à un peuple d'Israël rebelle, s'il est en colère face à l'humanité, comme il est dit dans Romains 1, face au péché persistant, si Dieu un jour va juger les êtres humains impies, Dieu n'est pas en colère contre nous, puisque sa colère est tombée sur la seule personne juste, comme Michel nous l'a rappelé tout à l'heure, sur Jésus-Christ. Dieu est un Dieu compatissant, et c'est parce qu'il est compatissant et qu'il nous aime que sa colère est tombée sur Jésus. Et que celui qui place sa confiance en Jésus, et si ce matin on place sa confiance en Jésus, on n'a pas à craindre la colère de Dieu. La colère de Dieu est déjà tombée sur Jésus. Jésus a payé pour nous. Alors parfois on a besoin de le redécouvrir, de redécouvrir qui est Jésus. Et la troisième piste de réflexion que je voudrais vous laisser, c'est l'attitude de l'apôtre Paul, qui dit « J'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit ». Et comme j'ai dit tout à l'heure, Dieu ne va pas nous parler au travers d'un ange, probablement, même s'il peut le faire. Mais il va nous parler comment ? Au travers de sa parole. Et c'est là que la méditation quotidienne de la parole, ce n'est pas juste une obligation. Je dois lire deux chapitres, trois chapitres, un chapitre, un demi-chapitre. On s'en fiche de ça. C'est un contact quotidien avec les Écritures qui nous permettra de voir qui est Dieu. Pas un petit Dieu étriqué comme je me le fais à ma façon, mais un grand Dieu qui est souverain, qui contrôle toutes choses au travers de plein d'histoires. J'en ai pris que quatre, mais il y en a plein d'autres qui vous montrent que Dieu est souverain, que Dieu est au contrôle. Et on le voit aujourd'hui. Ce n'est pas un Dieu d'il y a 2000 ans, c'est un Dieu qui agit aujourd'hui, qui a agi cette semaine, et qui cette semaine, dans vos vies, chacune de vos vies va encore agir comme il va agir dans ma vie aussi. Voilà. voudrais conclure là-dessus et on va prier. Et peut-être j'aimerais que le groupe de musique, alors j'avais un chant mais vous ne le connaissez pas, donc je proposerai le 145 tout à l'heure, mais on va prier pour conclure. Notre Dieu, notre Père, nous te louons encore pour ta majesté. Nous te louons parce que tu es vraiment vivant. Tu nous l'as montré au travers de ce témoignage. Nous voulons encore prier, Seigneur, pour ces musulmans, de prier pour ce premier voisin de Jean-Yves, afin que tout ce qui a été semé puisse réveiller en lui une certitude de perdition et puisse l'aider aussi à saisir la vie éternelle. Seigneur, je te prie pour que ces exemples ne restent pas lettre morte dans nos vies, mais que vraiment nous puissions avancer, que nous puissions agir, nous appuyer sur toi. Et Seigneur, si demain des circonstances viennent nous frapper, ou si nous sommes maintenant dans des circonstances difficiles, et je le suis moi-même, eh bien, nous comptons sur ta toute-puissance, Seigneur, parce que tu veux nous conduire au port désiré. Et nous avons cette confiance en toi, Seigneur, qu'il en sera fait comme tu l'as dit. Amen.